Et maintenant, le journal des Amériques et d'Haïti. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. La Bolivie en proie à une explosion ces dernières semaines du nombre de contaminations dues au coronavirus. La présidente, par intérim, elle-même a été affectée, mais c'est surtout la situation des peuples autochtones qui inquiète, car ces communautés sont souvent isolées et laissées à leur propre sort. On entendra le reportage d'Alice Campagnol. On vous parlera de la Floride qui bat un nouveau record en termes de décès dus au coronavirus, mais aussi du Venezuela où la capitale Caracas est de nouveau en quarantaine depuis aujourd'hui. Et puis ce scandale au Brésil, où l'élevage bovin illégal se multiplie depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, de la viande qui est exploitée par le leader mondial du secteur, le brésilien JBS. On entendra l'auteur d'un rapport pour Amnesty International. En Bolivie, des milliers de personnes ont manifesté hier à La Paz, défiant les mesures de confinement pour protester en pleine pandémie contre les politiques de santé, d'éducation et de travail menées par la présidente par intérim, Jeanine Agnès. Cette manifestation la plus importante depuis le début de l'épidémie en Bolivie est symptomatique d'un malaise grandissant au sein de la population sur la façon dont est gérée cette crise sanitaire qui fragilise encore plus certaines populations autochtones, dont certaines vivent encore de manière traditionnelle, isolée du reste du pays. Alice Campagnol à La Paz a recueilli les témoignages de ces populations qui doivent faire face à la contagion.
En tant que peuples indigènes, nous nous sentons abandonnés. Depuis le début de toute cette épidémie, personne n'est venu, ni le département, ni le gouvernement central, personne n'est venu voir quels sont nos besoins.
Julia Molina appartient à l'ethnie Morenia. Elle vit dans le Tipnis, un parc naturel au centre de la Bolivie, à plusieurs heures de piste du premier petit centre urbain.
Il y a une dame qui est décédée ici dans la communauté et les docteurs ont dit que c'était un cas suspect de coronavirus. Mais il y a tellement de demandes de tests que nous allons attendre 2 semaines avant de savoir si c'était bien un cas de Covid. Mais pendant ce temps, combien de familles vont être infectées ici?
Les services de santé nationaux sont débordés. Le centre de santé de Santissima Trinidad, où vit Julia, est loin d'être la priorité nationale. Myrna Cunningham dirige depuis le Nicaragua le FILAC, le Fonds pour le développement des peuples indigènes d'Amérique latine et des Caraïbes. Elle explique.
Ce sont des gens qui sont abandonnés en général. Le Covid n'a fait que renforcer cette situation. Et s'ils ont déjà vécu des épidémies graves comme la malaria, la dengue ou le chikungunya, le Covid est plus grave, car ce virus a vraiment mis les services de santé nationaux sous tension et touche toute la population. Les gouvernements n'étaient pas du tout prêts pour affronter cela. Et pour ne rien arranger, ces populations indigènes, parce qu'elles ont changé leur diète traditionnelle et ne vivent plus dans leur habitat naturel, ont développé de nouvelles maladies comme le diabète ou l'hypertension.
Ces abandonnés sont des communautés rurales avec peu d'accès aux services de base comme le peuple Moreno ou bien des peuples en isolement volontaire. Et face à l'oubli des gouvernements centraux, ces communautés se sont organisées seules. Martin Torrico, sociologue de l'organisation CIPCA.
L'une des premières mesures prises a été l'installation de barrages à l'entrée des villages. Ensuite, face à l'absence des services de santé, les communautés se sont tournées, comme elles l'ont toujours fait, vers les médecins traditionnels qui pratiquent la médecine naturelle.
Pour Myrna Cunningham, si les communautés indigènes sont véritablement en danger face à ce virus, elle voit toutefois un aspect positif à cette pandémie.
Comme ce virus a touché le monde entier, qu'il est devenu une crise mondiale, cela a permis de mettre en avant la question des communautés indigènes, mais aussi la nécessité d'un changement de modèle économique global et la question de notre rapport à la nature.
La Bolivie vit actuellement le pic de l'épidémie. Les communautés autochtones et l'ensemble de la population du pays ont encore de dures semaines à affronter. Alice Campagnol, La Paz, RFI.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne.
À la revue de presse des Amériques avec vous et on commence avec le Venezuela qui impose à nouveau une quarantaine à partir d'aujourd'hui à Caracas et Miranda.
Et c'est la une du journal El Universal aujourd'hui. Quarantaine radicale, c'est le terme utilisé en raison de l'augmentation des cas de Covid-19. Hier, le président Nicolas Maduro a annoncé que sur 303 nouveaux cas dans le pays, 93% provenaient de Caracas et de l'État de Miranda. Trois morts ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte le bilan officiel du Covid-19 à 96 morts.
Et le président Maduro désigne des responsables de la propagation du virus.
Oui, il pointe du doigt les trocheros, ceux qui traversent clandestinement les frontières, notamment celles avec la Colombie. Ils sont nombreux à le faire au quotidien pour travailler ou pour acheter des produits moins chers côté colombien ou pour rentrer au pays en raison de la crise, car les postes frontières sont fermés. El Nacional raconte que le commandement stratégique des opérations des forces armées appelle même les Vénézuéliens à dénoncer en toute discrétion tous ceux qui entrent dans le pays de façon illégale. Pour cela, il suffit simplement d'envoyer un email avec le nom et l'adresse exacte de la personne. Un trochero infecté est un bioterroriste près de chez toi qui peut te tuer ou tuer ta famille. Voilà le message partagé sur Twitter par l'armée, plutôt inquiétant. Hein. Une initiative largement critiquée par l'opposition qui parle de formalisation des persécutions politiques à travers les forces armées.
Un mot du Costa Rica, à présent longtemps épargné et même considéré comme un modèle en Amérique latine. Il est confronté depuis deux semaines à une accélération de l'épidémie.
446 nouveaux cas de Covid-19 rien que mardi. La maladie a fait 10 morts en 4 jours, 37 morts en tout, explique La Nación. Les autorités s'alarment du fait que 70% des Costaricains souffrent de surpoids ou d'obésité. Une comorbidité qui peut, on le sait, favoriser les cas graves de Covid-19, tout comme les problèmes cardiovasculaires qui touchent la moitié des plus de 19 ans au Costa Rica.
Et aux États-Unis, Marie, le nombre de personnes positives au coronavirus est toujours en forte hausse. Ce lundi, plus de 63 000 nouveaux cas ont été déclarés à l'échelle nationale. 9 000 pour le seul État de Floride en seulement 24 heures entre hier et aujourd'hui. Les hôpitaux saturent. Résultat, les équipements viennent à manquer. C'est aussi le cas en Californie, en Arizona et au Texas. Cette flambée concerne surtout les États du Sud et de l'Ouest. Megan Rané est médecin urgentiste à Rhode Island et elle travaille dans une ONG qui collecte et redistribue ses matériels de protection. En avril, son état dans le nord-est du pays faisait partie des plus touchés par la pandémie. Désormais, elle estime que la situation est bien pire dans le sud des États-Unis. On l'écoute.
Dans certains États, la situation est pire qu'elle ne l'était dans le Massachusetts, le Connecticut ou à Rhode Island au mois d'avril. Au Texas, dans l'Arizona, à Phoenix, dans certaines régions de Floride, il y a une augmentation énorme de cas de Covid-19. C'est terrifiant. Il n'y a pas assez de lits disponibles dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de tests, il n'y a pas assez d'équipements de protection. Les hôpitaux de Houston au Texas sont saturés. Ils font revenir les camions réfrigérés pour soulager les morgues. Et le nombre de cas continue d'augmenter, parce que certains de ces États n'ont pas encore mis en place les mesures de santé publique nécessaires. Mes amis et collègues à travers le pays prévoient que la situation va continuer de s'aggraver au cours des 2, 3 ou 4 prochaines semaines, et ce jusqu'à ce que les choses changent. C'est tellement frustrant et déconcertant de voir qu'on se retrouve à nouveau dans cette situation et qu'encore une fois, ça n'ait pas été anticipé.
Megan Rané, médecin urgentiste dans l'état du Rhode Island, au micro de Cécile Dacosta. On reste aux États-Unis, Marie, où l'administration Trump renonce à sa décision de priver de visa les étudiants étrangers dont les cours se feraient en ligne à la rentrée prochaine en raison du Covid-19. La décision avait provoqué un tollé et des actions en justice.
Oui, et promis à dégainer ces actions en justice, l'université de Harvard et l'institut de technologie du Massachusetts, rappelle le Washington Post, des dizaines d'universités avaient soutenu leur action en justice, tout comme Google, Twitter, Facebook et plus d'une douzaine d'autres entreprises de la tech. Lors de l'audience hier, le juge du tribunal fédéral de Boston a annoncé qu'un accord avait été trouvé. Le gouvernement a accepté d'annuler la directive du 6 juillet. La situation revient donc au statu quo du mois de mars. Normalement, les étudiants étrangers sont tenus d'assister à leurs cours en personne, mais le service des douanes faisait preuve de tolérance depuis que les écoles avaient basculé en ligne en raison de la pandémie.
Et c'est donc ce statu quo qui prévaudra à l'automne, à la la reprise des cours sur Internet pour beaucoup d'écoles.
Et pour le Houston Chronicle, que le gouvernement soit enfin revenu à la raison ou qu'il ait simplement réalisé qu'il se battait pour une cause perdue, l'abandon de cette politique était la bonne décision pour les étudiants, les universités et les États-Unis. Mais peut-être que le mal est déjà fait. Un médecin cité par le magazine Science se demande si après cette affaire, les États-Unis resteront la première destination pour ceux qui recherchent un enseignement supérieur, en particulier dans le domaine des sciences. Cette incertitude autour de la politique migratoire américaine s'ajoute aux difficultés liées à la fermeture des consulats américains à l'étranger et aux interdictions de voyage en raison du Covid-19. Au final, les inscriptions d'étudiants étrangers devraient, selon le Washington Post, chuter à leur plus bas niveau depuis des décennies, ce qui posera des problèmes à l'économie américaine dans les années à venir.
Alors, autre titre à la une de la presse, Marie, le New York Times quitte Hong Kong.
Oui, en tout cas, une grande partie de son bureau, toute la partie numérique est transférée à Séoul, en Corée du Sud. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la censure a été renforcée avec la loi de sûreté imposée au mois de juin par Pékin. Et cette loi, selon le New York Times, a déstabilisé les organes de presse et créé de l'incertitude quant à la perspective de voir cette ville rester la plaque tournante du journalisme en Asie. La plupart des journalistes du quotidien américain ont été expulsés de Pékin ces dernières semaines et certains ont eu du mal cette année à renouveler leur permis de travail à Hong Kong. Le New York Times a donc décidé de prendre les devants.
Et puis pour finir, Marie, Ivanka Trump, la fille du président américain, posant tout sourire à côté d'une boîte de haricots noirs.
Oui, comme dans la meilleure émission de téléachat, Ivanka Trump tweet sur son compte une photo d'elle accompagnée du slogan « Si c'est Goya, c'est que c'est bon » et le tout en anglais et en espagnol, s'il vous plaît. C'est ce que précise le journal new-yorkais El Diario. Alors, pourquoi poser à côté d'une boîte de conserve ? Eh bien, pour montrer le soutien de la famille Trump à Goya, la plus grande société alimentaire hispanique du pays, un classique des foyers latino-américains. La marque affronte une campagne de boycott sur Internet depuis que son directeur a loué la politique de Donald Trump, la même qualifiée de bénédiction. Mais selon le New York Magazine, le tweet d'Ivanka, la principale conseillère du président, semble violer les normes éthiques des professionnels de l'exécutif qui ne peuvent normalement pas utiliser leurs fonctions publiques à des fins privées ou pour la mise en avant d'un produit quelconque.
Merci Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. Cette vidéo à présent qui crée l'émoi au Brésil et fait écho à celle qui avait conduit aux immenses manifestations antiracistes aux États-Unis et à travers le monde. Cette vidéo montre une femme noire qui se débat alors qu'un policier lui écrase le cou. Les faits datent du 30 mai dernier, 5 jours après la mort de George Floyd aux États-Unis, dans des conditions similaires donc, mais les vidéos ont été dévoilées ce dimanche. Cela a provoqué bien sûr l'indignation au Brésil. Dans un programme de la télé brésilienne ce mardi, cette femme témoigne de ce qui lui est arrivé sous couvert d'anonymat. Sarah Cozzolino à Rio.
Interrogée par les journalistes de la TV Globo, la femme noire de 51 ans, agressée par un policier militaire de Sao Paulo, dit avoir pensé à George Floyd quand elle était plaquée au sol, avec le pied du policier lui écrasant le cou.
Quand j'étais brutalisée, je me suis souvenue de son image. Je croyais que j'allais mourir comme lui.
Elle raconte qu'elle était incapable de demander aux policiers d'arrêter.
Je ne pouvais que me débattre et lui continuait d'appuyer son pied. Après, je me suis évanouie et on m'a ensuite raconté qu'il m'a traînée sur le trottoir d'à côté.
La femme qui a eu le tibia fracturé pendant l'agression explique qu'elle était intervenue alors que son ami était brutalisé par les policiers. Le gouverneur de l'État de Sao Paulo a annoncé que les agents en question avaient été suspendus et qu'une enquête était en cours. Il a aussi rappelé qu'à partir du 1er août à Sao Paulo, 2000 policiers commenceront à porter des uniformes avec une caméra intégrée.
Cela réduira le niveau de violence pratiquée par une minorité qui compromet la majorité des policiers. Mais ce sera aussi utile pour présenter des faits réels.
La police brésilienne est celle qui tue le plus au monde. Entre janvier et mai 2020, les chiffres ont atteint un record. 442 personnes ont été tuées par la police militaire de Sao Paulo. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et on reste au Brésil où l'élevage illégal du bétail a augmenté, en particulier en Amazonie. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro, c'est la conclusion d'un rapport publié par l'organisation Amnesty International. Rapport publié ce mercredi et intitulé « From Forest to Farmland », de la forêt aux terres agricoles. Après avoir enquêté sur place, notamment dans l'état amazonien de Rondônia, l'organisation a aussi remarqué que ce bétail, mis en pâturage illégalement dans des zones protégées, s'était retrouvé dans la chaîne d'approvisionnement du leader mondial de la viande, l'entreprise brésilienne JBS. Arim Lipold a pu joindre l'auteur de ce rapport, Richard Piercehaus.
What we did was to request.
Ce que nous avons fait, c'est de demander à une agence gouvernementale de l'État de Rondônia des informations sur des troupeaux de bétail élevés illégalement. Les données que nous avons obtenues montrent que récemment, depuis un an et demi, le nombre de bovins élevés dans des zones protégées, donc interdites à l'élevage car appartenant à un territoire indigène, a considérablement augmenté. Pour vous donner une indication, dans le seul état de Rondônia, qui est l'un des états amazoniens, il y a environ 150 000 bovins qui pâturent dans des zones illégales. Et nous avons trouvé des cas où ces bovins, élevés illégalement dans des zones protégées, ont été retrouvés dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise de transformation de viande JBS. Il s'agit de l'entreprise de transformation de viande la plus importante du Brésil et même du monde.
Et comment réagissent les autorités locales ?
Il y a des agences gouvernementales au Brésil qui autorisent d'une manière très efficace le pâturage illégal de bovins dans des zones protégées. Et ces agences vont aussi autoriser le transfert de ces bovins d'une ferme à une autre. Et cela, malgré le fait que ces fermes se trouvent dans des zones protégées. Une des principales recommandations de notre rapport est que les gouvernements de ces États cessent d'autoriser l'existence de ces fermes dans des zones protégées. Nous ne sommes pas les seuls à demander cela. Le procureur fédéral brésilien est du même avis. Lui aussi fait pression sur les gouvernements des États pour qu'ils cessent d'autoriser les activités des grands propriétaires dans les zones protégées.
Donc c'était Richard Piercehaus de l'organisation Amnesty International au micro d'Arim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, visée comme partout ailleurs par un grand nombre de récriminations, les services de la Poste en Guyane tentent de se défendre.
Oui, on retrouve d'abord les mêmes explications qu'en métropole, protection des personnels, désinfection des bureaux, garde d'enfants, etc. Mais il y a, on va dire, une dimension plus ultramarine et elle tient en une phrase, il n'y a plus assez d'avions pour transporter le courrier. Écoutez le directeur de la Poste en Guyane, Yann Villette, il est au micro de Véronique Betz.
Oui, il y a des difficultés de distribution qui ne sont pas différentes des difficultés rencontrées par les Guyanais. Mais nous faisons en sorte d'assurer le service. Alors, faut savoir qu'actuellement, du fait de la baisse du nombre de rotations aériennes, nous avons environ un mois de retard, c'est-à-dire qu'il y a environ un mois de colis et de courriers qui sont aujourd'hui stockés à Roissy en attente de rétablissement des liaisons aériennes. Et c'est le gros problème que rencontrent les facteurs. Ils ont à faire face à quelquefois à du mécontentement, à des incivilités. Sachez, messieurs, dames, que les facteurs n'y sont pour rien. C'est bien, nous sommes contraints par le nombre de liaisons aériennes.
On passe à un tout autre sujet avec le premier réchaud solaire made in Guadeloupe. L'invention existe déjà dans de nombreux pays, mais c'est la première fois qu'un Guadeloupéen, il est ingénieur à la retraite et s'appelle Michel Pioche, se lance dans la fabrication d'un cuiseur solaire. Reportage au Lamantin, Peggy Robert.
Cette machine fonctionne exactement comme une loupe que les enfants ont l'habitude d'utiliser pour tuer des fourmis en concentrant des rayons dessus. Cette machine ne fait pas autre chose que ça, concentrer les rayons à une autre échelle, en un seul point, le foyer du miroir, qui peut atteindre des températures allant de 400 à plus de 1000 degrés.
Pour qu'il fonctionne de manière optimale, Michel Pioche nous confie son petit secret, noircir l'extérieur des marmites.
Il faut les noircir pour que la lumière soit absorbée. Sans cette couleur noire, les rayonnements ne sont pas absorbés. C'est très important, cette couleur noire. Je dirais même que c'est le secret de fonctionnement. fonctionnement de ça.
Le réchaud a une drôle de forme. Il s'agit d'une parabole d'une surface d'1,5 mètre carré. Pas d'émissions de gaz, pas de matière inflammable. L'énergie solaire est gratuite, disponible quasiment toute l'année. Selon Michel Pioche, la machine ne vaut pas plus cher à fabriquer qu'une gazinière classique pour une durée de vie bien plus longue. Il n'y a pas d'électronique. Michel Pioche espère que de nombreux Guadeloupéens voudront s'équiper d'un réchaud solaire. Il se dit prêt à monter un atelier chez lui à Lamantin pour les aider à le fabriquer eux-mêmes.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain, merci à vous Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain 15h10 à Paris. Bonne journée sur RFI.